Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Aujourd'hui, l'Église nous fait célébrer une fête importante.
Vous avez pu faire attention, déjà, en regardant dans vos missels.
C'est aujourd'hui la conversion de saint Paul. Vous avez souvent entendu parler de saint Paul. On lit très souvent des épîtres de saint Paul à la messe. Saint Paul est né à Tarse. C'était la capitale de la Cilicie. Il était juif, son père était pharisien. Et 8 jours après sa naissance, il fut soumis au rite de la circoncision. C'était ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Le bon Dieu a demandé par Moïse de circoncire tous les garçons. À ce moment-là, il recevait le nom. Et il reçut le nom de Saul. Et plus tard, son père l'envoya à Jérusalem pour se faire instruire de la Sainte Écriture, de la loi de Moïse et de tous les livres de l'Ancien Testament. Et il était devenu très zélé. Et voilà que quand il y eut ces premiers chrétiens qui ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ, alors il était furieux après eux. Les pharisiens étaient furieux après les premiers chrétiens. Ils ont condamné à mort notre Seigneur Jésus-Christ et ils ont pensé, maintenant c'est fini. On est tranquille. Mais ce n'était pas fini. C'est qu'après la Pentecôte, les apôtres ont continué à prêcher Jésus partout en disant qu'il était ressuscité, qu'il était le Christ, le Messie, celui annoncé par les prophètes, le Sauveur du monde. Alors les pharisiens étaient furieux, ils ont attrapé les apôtres, ils les ont flagellés en leur disant « Vous ne parlerez plus de Jésus, c'est terminé !» Et eux, ils ont continué de parler de Jésus partout. Et saint Paul était aussi de ce même esprit que les pharisiens, furieux après les premiers chrétiens, en disant « Ils viennent, c'est des ennemis du peuple de Dieu, ils viennent troubler. » Aussi, ils persécutaient les chrétiens. Saul, saint Paul. Un jour, il y avait donc un diacre qui s'appelait Étienne. Il était rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et il prêchait merveilleusement sur notre Seigneur. Et alors, un jour, les pharisiens l'ont attrapé, et puis l'ont interrogé, l'ont questionné, en essayant de le convaincre que Jésus n'était pas Dieu, que ce n'était pas le Messie. Et lui, il parlait avec une telle sagesse qu'au bout d'un moment, ils n'ont pas pu supporter, ils ont bouché leurs oreilles, ils ont crié, ils l'ont emporté dehors de la ville et ils l'ont lapidé. C'est-à-dire qu'ils l'ont tué en jetant des pierres sur lui. Pour le lapider, alors ils avaient l'habitude d'enlever le manteau qui les gênait et de les déposer auprès de quelqu'un. Là, ils ont déposé leur manteau auprès de Paul, auprès de Saul. Et Saul était tout content de garder leur manteau et il les encourageait à tuer Saint-Étienne, puisque c'était un chrétien. Et il continuait donc de persécuter les chrétiens à Jérusalem. Puis un jour, eh bien, il s'est dit, il faut aller en dehors de Jérusalem aussi. Alors il est allé voir les princes des prêtres et leur a dit, écoutez, je vais aller à Damas, si vous voulez bien. J'irai chercher tous les chrétiens, je les enchaînerai et je les amènerai ici à Jérusalem. Et puis on les fera souffrir pour les faire renier cette religion. Alors les grands prêtres, très contents, lui ont donné des lettres de recommandation pour qu'il puisse aller dans toutes les synagogues de Damas, dans les villes, dans les grandes villes, il y avait plusieurs synagogues. Les synagogues, c'était les lieux où les juifs se réunissaient pour prier, pour recevoir l'enseignement. Alors il est parti avec quelques soldats sur son cheval, sur la route de Damas. Et voilà que tout d'un coup, il est entouré d'une lumière mystérieuse. Et une force invisible le jette par terre. Il tombe par terre du cheval. Et il entend une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors il est tout surpris. Il dit, mais Seigneur, qui êtes-vous? Et la voix lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon. Alors saint Paul dit, Seigneur, que voulez-vous que je fasse?
Et la voix continue. Va à Damas, et là on t'indiquera ce qu'il faudra faire. Les soldats qui étaient avec lui étaient tout surpris. Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont rien vu. Ils n'ont vu personne. Ils ont vu bien sûr que Saul était tombé par terre. Alors il l'aide à se relever. Et lui, les grands yeux ouverts, il ne voyait plus rien. Il était aveugle. Alors on l'a conduit par la main. Et puis on arrive à Damas. On entre dans la maison de Jude, un homme qui s'appelait Jude. Et là, il resta 3 jours sans manger, sans boire, et tout en restant aveugle. Et dans cette ville, il y avait un homme qui s'appelait Anani. Un homme, c'était un chrétien. Il était aimé, il était respecté. C'était un homme sage, il était rempli du Saint-Esprit. Et il encourageait les chrétiens de Damas à tenir ferme, à devenir fervent, à résister aux menaces et aux persécutions des Juifs. Et voilà qu'il eut une vision. Et Jésus lui dit, va dans telle rue, dans la maison de Jude, et là tu trouveras un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Alors quand Anani a entendu parler de ce nom, il a dit, mais Seigneur, mais j'ai entendu parler de ce Saul de Tarse. Il est terrible. Il persécute les chrétiens. Il a enchaîné les chrétiens à Jérusalem. Il les fait torturer. Et il a reçu d'ailleurs des lettres pour venir ici à Damas et venir enchaîner les chrétiens. Alors le Seigneur lui dit, non, t'inquiète pas, va. J'en ferai un vase d'élection. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Alors Anani s'en va. Il arrive dans la maison. Il trouve donc Saul, qui lui aussi a eu une vision, voyant venir Anani et le guérir de son aveuglement. Et c'est ça, Anani est arrivé, il lui a imposé les mains, et puis comme des écailles sont tombées de ses yeux, et il retrouva la vue, et puis il fut baptisé, il fut confirmé, et même ordonné prêtre. Et alors, il discuta avec Anani, était instruit par Dieu lui-même, et il avait une grande connaissance de la religion. Alors il commença, après à manger, à se fortifier et à aller dans les synagogues. Et il prêchait. Les gens étaient inquiets, ils disaient, ça y est, c'est celui-là qui doit venir enchaîner les chrétiens. Mais lui, il prêchait sur Jésus. Et il disait, mais vous n'avez rien compris. Jésus, c'est le Christ. Mais lisez les Écritures, vous verrez que c'est de lui qu'il a été parlé, par les prophètes. Il a accompli toutes les prophéties. Il a fait des miracles. Il a dit lui-même qu'il était Dieu. Oh, tout le monde était surpris dans les synagogues. Il disait, mais qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Il était persécuteur des chrétiens. Et voilà qu'il parle de Jésus. Est-ce que c'est un piège? C'est peut-être un piège pour nous attraper. Méfions-nous quand même. Mais il insistait. Et 2-3 jours là, et pour finir, ils ont compris. Anani leur a dit, voilà. Non, il a été converti. Il a été changé. Et il est devenu ce grand apôtre Saint Paul. Le plus éloquent des apôtres, qui a parcouru le monde entier, le monde connu, il est allé jusqu'en Espagne pour prêcher Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est aujourd'hui la fête de Saint Tite et aussi de Sainte Dorothée. Mais je ne pourrais pas parler des deux. Alors je vais vous parler de Saint Tite. Vous avez certainement entendu parler de ce saint. Quelquefois à la messe, on lit des épîtres que Saint Paul a adressées à Saint Tite. Vous voyez ? Lecture de l'épître de Saint Paul à Tite. Vous voyez ? Donc vous comprenez que Tite était un disciple de Saint Paul. Mais d'où était-il ? Eh bien, il est né dans une île, l'île de Crète. Et il était de parents nobles, il était même de race royale. À ce moment-là, c'était Minos qui était le roi de Crète. Et dans sa jeunesse, il aimait à étudier, à connaître les sciences. Alors il apprenait les poésies d'Homère, c'était très compliqué. Et puis il aimait aussi apprendre la philosophie des Grecs, qui était réputé pour une grande sagesse. Et en effet, les Grecs avaient atteint une grande sagesse dans la philosophie. Alors il aimait à étudier ça.
Et à l'âge de 20 ans, il a entendu une voix qui lui dit « Laisse tomber cela, quitte ce lieu pour t'occuper de ton salut. » Alors il ne savait pas très bien d'où venait cette voix, parce que quelquefois des voix venaient des idoles des païens. Il dit « Bon, je ne sais pas trop, je vais attendre un peu. » Alors il a continué d'étudier, et au bout d'une année, il eut une révélation qui lui a dit « Prends les livres des Hébreux, lis le livre des Hébreux. » C'était quoi ce livre des Hébreux? C'était la Bible, mais c'était l'Ancien Testament. À ce moment-là, du temps de saint Paul, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament comme nous le connaissons aujourd'hui. Il était en train de se faire, vous voyez. Alors il s'est intéressé, il a cherché ce livre, il a commencé à lire, et un jour il est tombé sur un passage d'Isaïe qui disait « Il de la terre prêtait une oreille attentive à mes paroles. Israël va être sauvé par un sauveur éternel. » Et cette phrase l'a beaucoup frappé. Un sauveur éternel? Que ça peut bien dire? Il réfléchissait. Et à ce moment-là, le proconsul de Crète, qui était l'oncle de Tite, il avait entendu parler de Jésus, des faits merveilleux que Jésus faisait en Terre Sainte. Alors, bien sûr, tous les bruits se répandaient partout. Ceux qui avaient été en Israël, en Palestine, lorsqu'ils allaient dans leur pays, racontaient ce qu'ils avaient vu et entendu. Voilà qu'il y a en Terre Sainte, en Palestine, en Israël, un homme qu'on appelle Jésus. Il fait des miracles formidables, on n'a jamais vu ça. Vous vous rendez compte, il ressuscite des morts. Oui, j'ai vu de mes propres yeux. Un jour, il y avait des gens qui sortaient d'un petit village, Naïm, ils portaient le cercueil, et voilà que Jésus arrive, et il dit au jeune homme, « Lève-toi !» Et il s'est levé. Mais il était bien mort, on allait l'enterrer. Et puis on a vu des boiteux guéris de leurs infirmités, des aveugles qui étaient nés, aveugles, qui commençaient à voir, des choses formidables. Alors, tout le monde en parlait, partout dans les régions. Et ce proconsul de Crète aussi avait entendu parler. Alors il s'était dit, il faut qu'on envoie quelqu'un pour voir ce qui se passe là-bas. Alors ils se sont réunis, tous les responsables, tous les chefs de région de l'île de Crète. Puis ils ont dit, il faut qu'on envoie quelqu'un. Qui est-ce qu'on va envoyer? Mais il ne faut pas envoyer n'importe qui. Il faut envoyer quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui soit capable de discerner qu'est-ce que c'est que ça et qui puisse nous rapporter un peu ça. Alors ils ont pensé à Tite, parce que Tite était intelligent, il avait une grande sagesse, il étudiait la philosophie, ça donne une sagesse. Alors ils ont dit, bien voilà, on va envoyer Tite. Alors Tite est parti, est arrivé là-bas, je ne sais pas trop où aller, enfin tout le monde en parlait, pour qu'il n'a pas mis longtemps pour retrouver notre Seigneur. Il est arrivé vers Jésus, il lui a présenté ses hommages, voilà, il a dit qu'il avait été envoyé du proconsul de Crète et des grands de Crète pour venir voir ce qui se passait. Et il a été émerveillé de la parole de Jésus. Il s'est dit, ce que dit cet homme, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus sublime que toute la philosophie des Grecs, qui était une merveille, mais la philosophie des Grecs à côté de ça, ce n'est rien. Avec quelle sagesse il nous parle, avec quelle simplicité, quelle bonté. Alors il était si frappé qu'il est resté là et qu'il est devenu un des disciples. Vous savez que Jésus avait 12 apôtres, il avait choisi 12 apôtres, mais il avait 72 disciples. On a encore lu aujourd'hui dans l'Évangile. Il a envoyé ses 72 disciples parcourir dans les villages pour annoncer la venue de Jésus. Alors il s'est mis parmi ses disciples. Et il a suivi toutes les choses, il a vu tous les miracles que faisait Jésus. Il a entendu tout ce qu'il prêchait, sa doctrine du royaume des cieux, des vertus, voilà, de Dieu le Père. Il a été témoin aussi de sa passion, de la passion de Jésus. Il a été aussi témoin de la résurrection de Jésus. de son ascension au ciel. Et puis, il était réuni aussi dans le cénacle. Vous savez qu'après que Jésus est monté au ciel, ils se sont retirés dans le cénacle à Jérusalem. Ils avaient peur des Juifs. Ils se sont dit, maintenant, les Juifs ont tué Jésus. C'est nous qui vont tuer, puisqu'on a suivi Jésus. Ils s'étaient enfermés dans le cénacle, barricadés, mais des bois pour tenir les portes, pour pas qu'on puisse les enfoncer. Et il était parmi eux lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Il a vu aussi comment Saint-Pierre est sorti de l'église, de ce cénacle, et qu'il a prêché sur le petit balcon qu'il y avait là, et qu'en ce jour, 3000 hommes furent baptisés. Et ensuite, il a été consacré évêque, et on a dit, eh bien, voilà, tu iras avec Paul de Tarse, qui était entre-temps converti. Et il a commencé à aller prêcher avec Saint Paul à Antioche, en Séleucie. Il est allé aussi un peu partout dans les régions de l'Asie mineure, en Pamphylie, à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Paphos, à Salamine, en Chypre, partout. Il est allé avec Saint Paul. Et Saint Paul l'aimait beaucoup, parce qu'il avait trouvé quelqu'un vraiment de très vertueux dans Tite. Et au bout d'un certain temps, ils sont arrivés dans l'île de Crète. Avec Saint Paul, ils sont arrivés pour prêcher là. Et là, il avait toute sa famille, bien sûr. Et puis, c'était son beau-frère qui était le proconsul à ce moment-là. Et ils ont commencé à prêcher, mais le beau-frère, il les méprisait. Bon, ce sont des illuminés, là. Ils sont un peu... Bon, faut pas les écouter, ils sont pas sérieux. Puis un jour, son fils qui mourut. Et puis, Saint Paul est venu et il a ressuscité le fils. Alors ça a changé. Alors il s'est converti, il s'est fait baptiser, et lui et toute sa famille aussi. Alors ils sont restés un peu dans l'île et ils ont prêché. Et ensuite, Saint Paul a dû repartir, comme Saint Paul voyageait partout pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, faire connaître Jésus, le royaume des cieux, et baptiser, et qu'il s'était beaucoup attaché à Tite, alors il avait pris Tite avec lui. Et quelquefois, il ne pouvait pas aller partout, alors il a envoyé Tite à sa place, à l'église d'Éphèse, voilà. Et puis, Tite, avec Saint Paul, sont arrivés à Jérusalem en l'an 51. Oh, ça fait déjà un moment, vous rendez compte, on est en 1992, en l'an 51. Pour le premier concile de Jérusalem. Là, il y avait des difficultés dans l'apostolat, ils avaient rencontré quelques épreuves, quelques tiraillements parmi les juifs convertis, parmi les païens. Alors ils sont réunis en concile pour mettre au clair la doctrine de notre Seigneur. Et là donc, Tite y était. Ensuite, il continue d'aller prêcher un peu partout. Et puis, Saint Paul l'a envoyé en Crète, il a dit, voilà, va en Crète, établis bien ton église et occupe-toi de toutes les îles autour. Il y avait tout un tas de petites îles autour de l'île de Crète. Alors occupe-toi de tous ces fidèles-là. Et Saint Paul alla à Rome, et c'est là qu'il se fit mettre à mort sous l'empereur Néron. Néron qui était très cruel. Hein. Et Néron qui mettait les chrétiens dans l'arène, qui se faisait manger par les lions, par les fauves, ou qui attachait des fois les chrétiens à des piliers, il les enduisait de poids, puis il mettait le feu, il brûlait vivant. Et Néron passait avec son char là. C'était très très cruel Néron. Et bien c'est Néron qui a tué Saint Pierre. Et Saint Paul. Saint Paul, on lui a coupé la tête. Alors quand Tite a appris la mort de Saint Paul, alors il s'est mis à rester dans l'île de Crète, il a moins voyagé. Il prêchait aux païens un jour, et ces païens résistaient. Non, non, ce que tu dis, c'est pas vrai, c'est faux. C'est des histoires, ça. Ouais, c'est contraire à nos dieux. Et il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à les faire comprendre. Alors tout d'un coup, il s'est arrêté de prêcher. Il s'est mis à prier. Et puis, il y avait la statue de la déesse Diane, qui tout d'un coup, elle est tombée et elle s'est cassée en 1000 morceaux, réduite en poussière. Quand les païens ont vu ça, qu'à la prière de Saint Tite, la statue était tombée, il y a eu 500 qui se sont convertis et qui sont devenus chrétiens. Et puis un autre jour, Saint Tite passe devant le temple de Jupiter. Et là aussi, il fait une prière. Et à la suite de cette prière, le temple de Jupiter commence à tomber en ruine. Alors, le proconsul Secundus, qui vient vers Saint Tite, puis il dit, mais s'il vous plaît, arrêtez de faire tomber ce temple en ruine. C'est l'empereur qui m'a demandé, qui m'a donné l'ordre de le bâtir. Et s'il apprend ça, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Alors Saint Tite lui dit, bon, reconstruis ce temple, mais au nom du vrai Dieu. Alors il l'a reconstruit, et cette fois-ci, il tenait, il ne tombe plus en ruine, il l'a reconstruit au nom du vrai Dieu. Et ensuite, eh bien, il s'est converti, ainsi que sa famille, et un grand nombre de païens qui étaient là. Voilà un peu l'histoire de la Saint Tite. Saint Tite, lui, il n'est pas mort martyr. C'est assez étonnant. Souvent, il y a eu énormément de martyrs dans les premiers siècles, eh bien, Saint Tite n'est pas mort martyr. Il est mort, il avait l'âge de 94 ans. Il avait beaucoup de zèle pour le salut des âmes. Il aimait beaucoup Dieu. Et c'est pour ça qu'il voulait faire connaître aux âmes le bon Dieu. Il s'était rendu compte que la science de Jésus, c'est la science que vous avez dans le catéchisme, la science de Dieu, était bien supérieure à toutes les autres sciences humaines. Alors il a su choisir entre ces sciences humaines et la science de Jésus, la science de Dieu. Alors voilà, nous allons demander aujourd'hui à Saint Tite, qui est au ciel, et qui nous regarde du ciel, c'est sa fête aujourd'hui, nous allons lui demander qu'il nous obtienne du bon Dieu une grâce, la grâce d'avoir toujours une plus grande connaissance de la science de Dieu, mais une vraie connaissance de la science de Dieu, que toujours nous puissions aimer davantage Dieu. L'aimer toujours plus profondément, vivre par amour pour lui. De façon que nous puissions aussi faire connaître Jésus autour de nous, à nos petits amis, à notre parenté, tout ça. Le faire connaître comme il doit être connu. Il est tellement bon. Lui, il a connu Jésus. Il a vécu avec Jésus. Il a été témoin de ses miracles. Oui. Bien, demandons-lui cette grâce aujourd'hui. Et demandons à la Sainte Vierge, lui, il a aussi connu la Sainte Vierge. Oui. Il a dû l'aimer, la Sainte Vierge, la prier. Mais demandons à Saint Tite d'intercéder pour nous auprès du bon Dieu, de la Très Sainte Vierge, pour nous obtenir la grâce d'avoir un grand amour de la science de Dieu, le zèle des âmes aussi, et de faire nos prières avec ferveur. Voyez les prières de Saint Tite, on fait écrouler les statues, et on ne sait pas tout non plus, mais en ce qu'on en sait, c'est déjà étonnant, mais qu'il nous apprenne à prier avec plus de profondeur. À profiter mieux aussi de nos saints sacrifices de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez peut-être été surpris en entendant cet épître. Quel drôle d'épître. La vision d'Ézéchiel, qui nous parle de quatre personnages qui, lorsqu'on les regardait devant, ils ressemblaient à des hommes. Lorsqu'on regarde à droite, du côté droit, ils ressemblaient à des lions. Lorsqu'on regardait du côté de gauche, à des taureaux. Et lorsqu'on les regardait de derrière, à des aigles. Eh bien, ces quatre personnages mystérieux représentaient les quatre grands prophètes et les quatre évangélistes. Et aujourd'hui, bien, c'est la fête de Saint Marc, qui était évangéliste. Saint Marc, vous savez que chaque évangéliste est représenté par une figure. Saint Jean est représenté par l'aigle. Saint Matthieu par l'homme. Saint Marc par le lion. Et Saint Luc par le taureau. Pourquoi ça? Eh bien, ça correspond avec le début de leurs évangiles. Saint Marc commence son évangile en parlant de Saint Jean-Baptiste qui est la voix qui crie dans le désert. Le désert qui était habité par des lions. Alors on représente Saint Marc par le lion à cause du début de son évangile. On ne connaît pas grand-chose de la jeunesse de Saint Marc. On sait qu'il était hébreu, d'origine de Cyrène, ville d'Égypte. Et puis, il a été, Parmi les disciples de Jésus, vous savez que Jésus avait des apôtres. Combien d'apôtres? Vous savez qu'il en avait 12. Hein? Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-André, Saint-Jacques, Saint-Marc, non pas Saint-Marc, Saint-Simon, etc. Et il y avait aussi 72 disciples. Comme vous avez entendu dans l'évangile aujourd'hui, Jésus a choisi 72 disciples qui les envoyait deux par deux dans les villes où il allait venir pour préparer les gens à la venue de Jésus. Et bien parmi eux, donc, était Saint-Marc. Saint-Marc n'était pas apôtre, mais seulement évangéliste. Vous savez que dans les évangélistes, il y a deux qui étaient apôtres, Saint-Jean et Saint-Matthieu, et deux autres qui n'étaient pas des apôtres, Saint-Luc et Saint-Marc. Saint-Marc, donc, eut une grande admiration pour Saint-Pierre. Et après que Jésus fut monté au ciel, après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, Saint-Marc s'est attaché à Saint-Pierre et il l'a suivi partout pour son ministère. Il allait avec lui, il l'aidait dans l'évangélisation, et puis il aimait écouter Saint-Pierre sur tout ce qu'il disait de Jésus. Et comme Saint-Pierre, c'était le premier pape, eh bien, il avait encore une influence plus grande sur tous les autres apôtres. Alors il est allé avec lui à Rome, et quelquefois Saint-Pierre devait quitter la ville de Rome pour aller prêcher dans les villes environnantes. Alors Saint-Marc restait là, et Saint-Pierre lui confiait la direction de tous les chrétiens qui étaient à Rome. Et puis les Romains étaient enchantés de cette bonne nouvelle qu'annonçaient Saint-Pierre et Saint-Marc. Alors ils se sont dit, écoutez, est-ce que vous ne voudriez pas nous mettre par écrit un peu la vie de Jésus, cette vie de Jésus que nous aimons tant? Alors il s'est mis à écrire la vie de Jésus, son évangile de Saint-Marc. Bien sûr, il existait déjà l'évangile de Saint-Matthieu, mais Saint-Marc a apporté quelques compléments qu'il tenait de Saint-Pierre. Et puis, Saint-Pierre, un jour, se décide de lui dire, mais maintenant, il faut partir, aller évangéliser l'Afrique. Bon, il faut la descendre au sud, et puis tu vas évangéliser cette partie. Alors, il a commencé, il s'est rendu d'abord à Cyrène, le lieu d'origine. Et là, il s'est mis à prêcher, bien sûr. C'était pas facile, parce qu'il n'y avait pas de catholiques, c'était tous des païens, qui adoraient les faux dieux. Alors il est allé, il faisait de nombreux miracles et beaucoup se convertissaient par ces miracles. Puis il est allé en Libye, il est allé en Thébaïde, la Thébaïde, d'où vient Saint-Maurice et toute son armée, on appelait l'armée thébéenne, venait de la Thébaïde. Donc c'est lui qui est allé prêcher l'évangile dans la Thébaïde. Puis ensuite il est venu dans la ville d'Alexandrie. Et là, eh bien, il parcourait partout, bien sûr, pour annoncer cette bonne nouvelle. Les gens étaient très surpris au début. Qu'est-ce qu'il vient nous annoncer, celui-là? Qu'il ne faut pas aimer les richesses? Mais on n'est pas habitué à des choses comme ça. Nous, on aime la richesse, l'or, l'argent, etc. On aime les honneurs, puis il vient nous annoncer qu'il faut mépriser les honneurs. Mais l'évangile, c'est juste le contraire de ce que veulent les gens du monde. Ils sont attachés aux richesses, aux biens d'ici-bas, aux honneurs. Et puis, ils ne veulent pas faire de pénitence. Qu'est-ce que c'est faire des pénitences, là? Pourquoi faire des pénitences? Alors, ils disaient, il faut faire des pénitences parce qu'on a offensé le bon Dieu par les péchés, ce que Jésus a enseigné. Alors, bien sûr, au début, ils étaient très surpris de ce que venait leur annoncer Saint-Marc. Mais comme il y avait des miracles nombreux qu'il faisait, alors, il disait, celui-là, c'est pas un homme comme les autres, et ce qu'il dit, ça doit venir de Dieu. Alors, vous pensez bien qu'il y en a de ceux qui étaient mécontents de voir qu'il y avait beaucoup qui se convertissaient, qui demandaient à être baptisés. C'était les païens. Et surtout les prêtres païens. Il y avait des prêtres qu'on appelle comme ça. Ils n'étaient pas... ils ont pas reçu un pouvoir, comme les prêtres que vous connaissez. Mais c'était ceux qui s'occupaient du culte de leurs idoles, de leurs faux dieux. Alors on les appelait les prêtres. Eh bien, on vu que bien des gens ne venaient plus au temple. Ils avaient un grand temple à Alexandrie, le temple de Sérapis. Alors ils se sont dit, il y a quelqu'un qui vient mettre le trouble parmi les nôtres. Alors ils ont découvert que c'était Marc. Alors un jour, il y avait une grande fête, justement la grande fête de Sérapis qui tombait le jour de Pâques, le jour de la fête de Pâques pour les chrétiens. Bien sûr, les chrétiens, fête, ils sont réunis pour la fête de Pâques, et il y avait bien moins de monde pour la fête de Sérapis. Alors, furieux, plein de jalousie, vous voyez toujours la jalousie, hein, c'est terrible, plein de jalousie, ils sont allés là où était Marc, et ils l'ont trouvé qu'il était en train de prier. Alors ils se sont jetés sur lui, ils lui ont attaché une corde autour du cou, et ils l'ont traîné par les rues, en l'insultant, en le frappant, en lui jetant des cailloux dessus, des coups de fouet, des coups de bâton. Quelquefois il tombait, il n'arrivait pas à marcher, alors il traînait par terre, son corps se déchirait par terre. Il y avait des lambeaux de peau qui tombaient sur le chemin. Et puis bien sûr, les pierres étaient rougies par son sang. Il entraînait une grande partie de la journée, ainsi dans les rues. Et puis, ils l'ont mis le soir en prison. Et ils se sont dit, on va voir de quelle mort on va le faire mourir demain. Bien, pendant la nuit, Saint Marc eut une vision. Dieu lui apparut et lui dit, eh bien, je vais très bientôt te prendre dans mon ciel. Tu as bien travaillé, tu as bien aidé à établir l'Église, tu as bien gagné les âmes à moi par l'Évangile, par l'annonce de l'Évangile. Je vais bientôt te prendre. Alors le lendemain, ils sont allés au cachot, et puis ils ont de nouveau rattaché la corde au cou, et ils l'ont encore tiré dans les rues, sur les pierres et tout cela. Et puis il en est mort, bien sûr, tout son sang s'est écoulé, il en est mort. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement qui effraya tous les gens. Certains disaient, c'est le dieu Sérapis qui se venge de celui qui est venu détourner les gens à ce culte. Tous ces païens sont enfuis, les chrétiens sont allés chercher son corps et ils l'ont enterré là. Eh bien, demandons à Saint Marc de nous aider à être des apôtres, à faire connaître l'évangile de Jésus. Cet évangile de Jésus qui apporte la paix, qui apporte le bien dans nos âmes, le bien dans les familles, le bien dans la société. Mais pour être apôtre, il faut connaître Jésus, il faut l'étudier et il faut l'aimer. Alors apprenez bien à connaître Jésus, à le connaître toujours plus. Et à l'aimer aussi beaucoup. Vous aimeriez le faire connaître autour de vous, à vos petits camarades de quartier. Parlez-leur de Jésus. Dites-leur, Jésus nous demande d'être obéissant, d'être soumis, serviable, charitable, de pardonner les offenses. Et peut-être, en faisant cela, les autres désirant connaître Jésus, l'aimer, beaucoup ne l'aiment pas. Voilà, eh bien, nous demandons aujourd'hui à Saint Marc de nous aider à être des vrais apôtres. Et demandons à la Sainte Vierge aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Encore une toute belle fête que l'Église nous fait célébrer aujourd'hui. On en a eu ces jours-ci des belles fêtes. Noël, la circoncision, le Saint-Nom de Jésus et aujourd'hui l'Épiphanie. Qu'est-ce que ça veut dire Épiphanie? Un drôle de mot. On entend souvent, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Ou bien, Épiphanie... Ça veut dire que Jésus se manifeste, il se fait reconnaître, voilà, il se fait connaître au peuple. Et dans la messe d'aujourd'hui, eh bien l'Église nous attire notre attention sur trois manifestations de Jésus. Aujourd'hui, bien sûr, Jésus se manifeste aux païens par l'étoile. Et puis il y a aussi la manifestation de Jésus lorsqu'il a été baptisé par Saint Jean-Baptiste au Jourdain, où... Il a été manifesté aux Juifs. Lorsqu'il a été baptisé, il y a une voix qu'on a entendue dans le ciel et on a vu le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. La voix disait, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Et la troisième manifestation de Jésus, c'était le jour de Cana, où il a transformé l'eau en vin. Alors là, il a manifesté sa puissance à ses disciples. Mais, bien sûr, ce que l'Église nous fait davantage contempler aujourd'hui, c'est la venue des trois rois mages. Les rois mages, vous savez que c'était des païens. Ils ne faisaient pas partie du peuple juif, du peuple hébreu, qui était le peuple de Dieu. Eh bien, les rois mages sont pour nous un exemple admirable. C'était des rois, bien sûr, et qui étaient aussi savants. Bien sûr, ils connaissaient les étoiles. Ils ont vu dans le ciel une étoile qui n'était pas comme les autres. Il se demandait ce que cela pouvait bien signifier. Et à ce moment-là, le bon Dieu leur a donné une inspiration dans leur âme. Il leur a rappelé une prophétie qu'ils connaissaient, puisque ça avait été faite par Balaam et elle s'était transmise. Mais il y avait longtemps déjà que cette prophétie avait été faite. Balaam avait dit, une étoile sortira de Jacob. Au même moment qu'ils ont vu l'étoile, le bon Dieu l'a inspiré dans leur cœur. Ça, c'est l'étoile de la prophétie de Balaam. Les Romains, immédiatement, ils ont décidé d'aller voir ce qui se passait. Dès que le bon Dieu leur a inspiré, ils ont décidé. Mais ce n'était pas facile, parce qu'il fallait entreprendre un grand voyage. Il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas le train, il n'y avait pas la voiture, il fallait marcher et aller ou bien à d'autres chameaux, ça n'allait pas vite, et c'était dans le désert qu'il fallait passer. Il fallait un peu renoncer à ses commodités. Oh, ils auraient pu dire, on est, mais il est né, restons chez nous, on est bien chez nous, dans notre palais, on est beaucoup mieux que d'aller marcher pendant des semaines, là, ou des mois, et puis, il fait pas très chaud, c'est l'hiver. Oh, on est bien mieux à la maison, on est mieux chez nous. Pas commode. Vous voyez ? Eh bien, ils étaient généreux. Les rois mages, malgré tout, ils étaient très généreux. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la générosité des rois mages, qui étaient des païens. À combien de chrétiens le bon Dieu dit, « Oh, tu devrais aller à la messe aujourd'hui. Waouh, on est mieux à la maison. Il faut encore se déplacer. On est mieux à la maison. Ou bien tu devrais... Ou bien quelquefois, les parents vous disent, « Maintenant, on va prier le chapelet. »« Oh, on aimerait mieux jouer, on n'aimerait pas prier le chapelet. » Vous voyez, souvent, hein, on n'est pas très chrétien. On agit moins bien que les rois mages. Mais eux, ils sont partis. Ils ont préparé un peu les provisions et ils sont partis. Alors, on s'est moqué d'eux. « Vous allez où ?» Mais ils ont perdu la tête, ces rois. Ils suivent une étoile. « Mais non, on n'a jamais suivi une étoile, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils sont un peu fait moquer d'eux. Hein. Tant pis. Ils sont partis, ils ont cru à la prophétie. Alors il se disait en route, mais qu'est-ce que ça doit être? Où est-ce qu'il est né? Dieu sait où est-ce qu'il est né. Jacob, mais Jacob, c'est le pays d'Israël. Ah oui, c'est en Palestine, c'est là-bas qu'il est né. Mais Dieu sait quel accueil ils ont dû lui faire, ils ont dû faire une grande fête. Le palais doit être décoré avec des guirlandes, des lumignons, des fleurs de toutes sortes. Qu'est-ce que ça doit être splendide? Quand on se rappelle, qu'est-ce que ça a été les cérémonies lorsque le Salomon a dédicacé son temple? On a sacrifié des milliers, plus de 22 000 taureaux et 120 000 boucs. On a sacrifié 120 000 béliers pour la dédicace du temple de Salomon. Ça a été une fête grandiose, on en parle encore partout. Dieu sait la fête que ça doit être pour la naissance de ce Messie. Eh bien, on va faire partie de la fête, nous. Alors, ils se réjouissaient. Et puis, l'étoile les conduit jusqu'à Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem. Alors, ça y est, c'est la grande ville. Oui, c'est la ville de Salomon. C'est là qu'il y a eu le temple. Alors, Dieu sait les fêtes qu'il doit y avoir. Ils arrivent à Jérusalem. Et puis, ils rencontrent des personnes. Dites-nous voir, où est-ce qu'il est né, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Les gens le regardent. Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Et vous comprenez la surprise des rois mages. Mais quoi? Vous ne savez pas? Mais alors, on se serait fait tromper? Mais comment est-ce possible? Vous, qui êtes le peuple de Dieu, le peuple qui avait reçu tous les enseignements de la Sainte Écriture, qui connaissait toutes les prophéties, mais vous ne savez pas qu'il est né? Ou alors on s'est peut-être trompé? Puis alors ils se disent, mais l'étoile, elle a disparu. Est-ce que peut-être alors c'était... Ah, mais ils ne restent pas comme ça. Ils sont vraiment généreux, ces rois mages. Et ils sont persévérants. Alors, non, on va demander. On va aller voir au palais. C'est au palais. Un grand roi ne peut être qu'au palais. On va chez Hérode. Et puis, on va demander. Est-ce que c'est ici que le roi des Juifs est né? Le roi Hérode n'était pas au courant non plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors vraiment, on a dû se tromper. Mais Hérode n'était pas tranquille. Alors il fait vite venir les princes des prêtres, les docteurs de la loi, les savants du temple. Et puis il leur dit, mais écoutez, il y a des rois qui sont arrivés, ils ont dit avoir vu une étoile, et ils disent, eh bien le Messie est né, parce que cette étoile, c'est la prophétie qui annonce que le Messie est né. Alors les docteurs de la loi, les savants du temple disent, mais bien sûr, il y a des prophéties qui disent qu'il doit naître à Bethléem, pas à Jérusalem, à Bethléem. Mais est-ce que vraiment vous croyez qu'il est né? Normalement, oui, ça devrait être possible, puisque le sceptre de Juda, le roi n'est plus un descendant de David, alors certainement qu'il doit être né. Ça semble bien être l'époque que les prophètes ont annoncée. Et puis s'ils ont vu une étoile, bon, non, on ne l'a pas vue, mais pour que des rois se déplacent à sur une étoile, ça a certainement quelque chose de vrai. Alors le roi Hérode fait venir les rois mages. Il était très inquiet, le roi Hérode, parce qu'il s'est dit, « Oh, si c'est vrai que le grand Messie est né, je ne vais plus être roi, je vais perdre ma place de roi. Ça ne m'intéresse pas. » Alors il fait venir les rois mages en secret, puis il leur dit, « Eh bien, oui, il est né à Bethléem. Allez voir à Bethléem. Et quand vous l'aurez trouvé, vous viendrez me dire, moi aussi je veux aller l'adorer. » Mais il ne voulait pas aller l'adorer, et il voulait le tuer, parce qu'il s'est dit comme ça, « Si je le tue, je serai tranquille. Jamais il y aura un roi qui viendra à ma place. » Allez, les rois mages contents, mais un petit peu surpris. Personne n'avait l'air très au courant de la naissance de ce grand Messie. Enfin, est-ce que c'est vraiment tout récent? Alors, la nouvelle n'a pas eu le temps d'être répandue. Nous avons vu l'étoile, bon Dieu nous a donné une étoile, alors peut-être que... Bon. Alors, on est parti, et en sortant de Jérusalem, ils revoient l'étoile. Quel bonheur! Alors, ils sont pleins de joie, ils continuent leur chemin. Alors ils pensent toujours, ben, il y a encore peut-être un autre temple ailleurs, un autre grand palais qu'on ne connaît pas, mais on apprendra bien. Alors on va se réjouir avec tous ceux qui se réjouissent pour la naissance de ce sauveur. Et voilà que l'étoile s'arrête sur un endroit. Quelle surprise! Mais c'est pas le palais qu'on imaginait. Alors encore, on s'est peut-être trompé. Et puis, au fond de leur âme, le bon Dieu leur dit, si, ils sentent que c'est ça. Eux, ces grands rois, avec leur cour, toute leur suite, arrivent là. Quoi? C'est ce petit enfant? Ils auraient pu se dire non, mais ils auraient pu être scandalisés. Quoi? Rien? Du simple gens, des pauvres gens? Une pauvre maman, un pauvre papa, un petit enfant, ils ont rien? Un âne et un bœuf? C'est ça le Messie? C'est ça le Messie annoncé? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ils auraient pu être scandalisés. Et beaucoup de chrétiens sont scandalisés des petites choses. La crèche, mais c'est pour les petits enfants, c'est plus pour nous, on est au-dessus de ça. Mais c'est des petites choses, c'est des enfantillages. On est beaucoup plus élevé que ça, on a des choses plus intéressantes à s'occuper que des petites choses comme ça. Et ils passent à côté de la crèche. Mais les rois mages, eux, ils ont une foi profonde. Quand ils arrivent, ils voient ce petit enfant, ils voient ses parents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à genoux. Ces grands rois se mettent à genoux devant un petit enfant, tout pauvre. Oui. Ils avaient la foi, ces rois mages. Ils étaient des païens, mais ils avaient la foi. Et une plus de foi que beaucoup des gens du peuple de Dieu. Les pharisiens, les princes, les savants du temple, qui savaient qui devait naître, qui savaient même où était né l'enfant, puisqu'ils ont indiqué à ces païens de rois mages où était né l'enfant. Eux, ils ne sont pas allés à la crèche. Eh bien, voyez, c'est ce qui peut nous arriver à nous aussi. Nous sommes nés dans la religion catholique. Nous avons appris le catéchisme. Nous avons appris à prier. Nous avons appris beaucoup de choses de nos parents. Attention que nous ne faisions pas comme les juifs. Voyez, que nous méprisions ces petites choses, que nous méprisions les mystères du bon Dieu, parce que, oui, c'est des petites histoires. Non, non, c'est la sagesse de Dieu. Beaucoup de chrétiens passent à côté des mystères du bon Dieu parce qu'ils n'ont pas la simplicité du cœur. Ils n'ont pas le désir de trouver Jésus. Eux, Jésus, ça ne les intéresse pas. Les princes et prêtres, eux, Jésus, ça ne les intéressait pas. Ils n'ont pas été à la crèche. Les rois mages, eux, oui, Jésus, ça les intéressait. Eux, ils recherchaient Jésus et ils ont trouvé Jésus. Ils ont dû quitter leur commodité, mais ils ont trouvé le roi des rois. Ça a été un grand bonheur pour eux. Et ils ont dû recevoir de grandes grâces. Et bien sûr, alors ils se sont dit, bien, maintenant qu'on a eu ce bel événement, ils ont offert les cadeaux. Et c'est pas n'importe quoi comme cadeau, hein? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voyez, les rois mages avaient une grande foi. Ils se sont dit à cet enfant, qu'ils ne connaissaient pas encore, il faut offrir des cadeaux qui sont dus à son titre, à son rang. L'or, parce qu'il est un roi, le roi des rois, le maître de l'univers. Alors l'or, c'est ce qu'on offre au roi. L'encens, parce qu'il n'est pas seulement roi, mais il est Dieu.
C'est à Dieu qu'on offre l'encens. Alors on apportera de l'encens à cet enfant. Il est Dieu. Dieu s'est servi d'une étoile pour nous avertir sa naissance. Et la myrrhe, parce qu'il est aussi homme et qu'un jour il doit mourir. Et oui, il mourra pour nos péchés, pour racheter nos péchés. Alors ils ont apporté ces trois cadeaux. Ensuite, plein de joie, ils se sont dit, bien nous allons dire à Hérode que nous l'avons trouvé. Hérode sera tout content, il va venir aussi avec nous l'adorer. Il sera, quel bonheur. Enfin, il faut qu'on avertisse au moins que cela, qu'il est né, que nous l'avons trouvé, qu'il sache aussi. Mais un ange leur est apparu pendant la nuit, en leur disant, non, n'allez pas voir Hérode. Prenez un autre chemin pour rentrer chez vous. Parce qu'Hérode, il ne veut pas aller adorer l'enfant, il veut le tuer, il est jaloux. Voyez, encore la jalousie, c'est terrible la jalousie. C'est un vilain défaut la jalousie. C'est à cause que les Juifs étaient jaloux qu'ils ont tué Jésus. Voyez, c'est à cause que Hérode était jaloux qu'il voulait tuer Jésus. La jalousie, c'est la pire des choses. Voilà, et alors ils sont partis dans leur pays. Ils sont devenus saints. Plus tard, saint Thomas, il est allé prêcher dans leur région et il a retrouvé les rois mages. Qu'est-ce que ça a dû être un bon moment pour saint Thomas de retrouver ses rois mages. Ils ont dû se parler. Alors Thomas dit, moi je viens de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est né à Bethléem. Les rois mages ont dû dire, mais nous connaissons ce Jésus-Christ. Nous sommes allés, nous l'avons adoré. Ils se sont fait baptiser. Et après, ils ont été annoncés la naissance de Jésus. Et ils sont morts martyrs. Maintenant, ils sont au ciel. Alors on a gardé les reliques des rois mages en Allemagne, dans une grande cathédrale de Cologne. On peut encore aujourd'hui voir les ossements des rois mages. Alors, mes bien chers enfants, il nous faut demander une grâce spéciale aujourd'hui aux rois mages, voyez. La grâce d'enlever de nos âmes le respect humain. Eux, ils n'ont pas hésité à dire qu'ils venaient adorer leur roi, le Messie, à tous ces gens qui étaient là étonnés de voir ces rois mages à Jérusalem. Jésus, c'est le seul qui doit nous intéresser. C'est ça la vraie sagesse. La sagesse de Dieu, de nous faire vivre comme Jésus veut que nous vivions, eh bien cette sagesse nous mènera au ciel. Voilà, aimons Jésus, recherchons-le et n'ayons pas de respect humain. Demandons aussi à la Sainte Vierge qui a été témoin de tous ces événements, qu'est-ce qu'elle a dû être heureuse de voir tout cela. Qu'est-ce qu'elle a dû être édifiée de voir comment ces grands rois, dans leurs vêtements somptueux, se sont agenouillés devant le petit enfant de la crèche. Quel bel exemple c'est pour nous, ces rois mages. Alors nous allons prier pendant cette messe, voilà, pour demander une grâce à ces rois mages qui sont au ciel, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien aujourd'hui, l'Église nous fait célébrer la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. La basilique de Saint-Pierre, c'est celle du Vatican. Et Saint-Paul, une grande basilique qui est en dehors de Rome, Saint-Paul hors les murs, qu'on appelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dédicace? Qu'est-ce que ça peut bien veut dire, ça? Eh bien, dédicace, ça veut dire qu'on consacre un lieu, un édifice, une construction, une maison à Dieu. Ça veut dire que cette construction est réservée uniquement à Dieu et à son culte. Voilà, consacré. Il est réservé qu'à cela. Donc, ce lieu ne peut pas servir pour autre chose que pour ça. On ne peut pas, par exemple, utiliser ces lieux puis faire du théâtre. Non. Ou bien, on ne peut pas utiliser ces lieux et faire des concerts. Non plus. C'est un lieu réservé strictement au culte de Dieu. Voilà, consacré. Et déjà, dans l'Ancien Testament, il y a eu ce grand temple de Salomon. Vous avez entendu parler de ce roi Salomon qui avait construit un temple merveilleux. Et ce temple a été aussi dédicacé, c'est-à-dire qu'il a été, par une grande cérémonie solennelle, consacré à Dieu, comme étant la maison de Dieu. Et Dieu a fait un miracle. Lors de cette consécration, il y a une nuée qui est venue entourer ce temple et on a senti la présence de Dieu dans cette nuée. Tout le monde était effrayé, voyez. Mais déjà avant cela,
Vous vous rappelez de Jacob et Ésaü. Jacob qui avait réussi à avoir le droit d'aînesse par un plat de lentilles qu'il avait fait cuire et que Ésaü voulait manger, alors il a échangé ce plat de lentilles. Et puis quand Jacob a reçu la bénédiction de son papa, Isaac, alors Ésaü était furieux. Vous vous rappelez, il est rentré de chasse et puis il a appris que son papa lui avait déjà donné la bénédiction à Jacob. Il est rentré dans une grande colère. Alors il voulait tuer son frère Jacob. Alors Jacob est parti se réfugier dans un pays plus éloigné pour éviter la colère d'Ésaü. Au cours de son voyage, il était fatigué, il s'est endormi un soir dans un endroit. Et pendant la nuit, il a eu ce songe. Il a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel. Et sur cette échelle, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Et au sommet de l'échelle, il y avait Dieu. Alors le matin, quand il s'est réveillé, Jacob, il s'est écrié, « Mais ce lieu est terrible, c'est la maison de Dieu, la porte du ciel. Je ne savais pas que Dieu résidait en cet endroit. » Alors, il a pris des plusieurs pierres qu'il a assemblées, il a fait avec ces pierres un autel, et il a offert un sacrifice à Dieu. Et d'ailleurs, si vous avez fait attention, les premiers mots de l'introïte, c'est justement les paroles de Jacob. « Terribilis est locus isti, ce lieu est terrible. C'est la maison de Dieu et la porte du ciel. » Voilà. Eh bien, c'est ce que sont les églises. Les églises sont les maisons de Dieu et les portes du ciel. Parce qu'elles ont été consacrées. C'est-à-dire, elles ont été, voilà, par une cérémonie, par une bénédiction, elles ont été réservées uniquement pour le culte de Dieu. Être la maison de Dieu. Alors, c'est des cérémonies qui durent des heures, hein, qui durent très longtemps. Ils se font rarement, bien sûr, c'est l'évêque qui vient et qui fait par une Pour tout d'abord, il tourne trois fois autour de la maison, autour de la bâtisse, de l'église, avec de l'eau bénite, il asperge, il récite des prières, des psaumes. Et ensuite, avec sa crosse, il tape trois fois la porte s'ouvre. Et par terre, on a répandu les cendres, alors il trace une grande croix sur ces cendres, inscrit l'alphabet grec et l'alphabet latin, pour montrer l'unité des deux églises, l'église grecque et l'église latine. On récite les litanies, ça dure des heures et des heures. On a eu dernièrement la consécration d'une église qui a été construite à Delémon. Oh, ça a bien duré 4-5 heures, la cérémonie. Très long. Pourquoi ? Bien pour montrer l'importance de ce lieu, ce que c'est que ce lieu, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà. Et pourquoi ce lieu est entouré de tant de cérémonies, de tant de splendeur, de tant de grandeur. Eh bien, parce que dans ce lieu est célébré les saints mystères. Voyez, je vous avais dit que la messe, c'était le résumé de tous les grands mystères de Dieu. Eh bien, dans ces lieux ont été établis pour célébrer les saints mystères de Dieu sur l'autel. Quand Jésus a célébré sa première messe, c'était au Cénacle. Et saint Jean, l'évangéliste, nous dit que c'était une salle bien ornée. Jésus avait voulu qu'elle soit ornée, fleurie, bien, avec des belles tapisseries, des tentures, des fleurs, parce que là allait être célébré le saint mystère de sa passion. Eh bien, ça a été le premier édifice où les saints mystères ont été célébrés. Et les chrétiens, ensuite, ont toujours choisi des maisons dignes pour qu'on le célèbre, ces saints mystères. Mais comme vous le savez, pendant 300 ans, les chrétiens ont été persécutés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont pu se montrer, ils ont dû se cacher dans des catacombes. C'est quoi les catacombes? Les catacombes, c'était des lieux où l'on extrayait dans le terrain, la matière, pour construire les bâtiments. C'est une sorte une terre spéciale. Quand on la met à l'air, elle se durcit. Et alors on en faisait des briques, c'était facile à tailler, et on les sortait à l'air, et on bâtissait les maisons, et plus elles restaient à l'air, plus elles se durcissaient, ça devenait dur comme la pierre. Alors il y avait tous ces grands couloirs, tous ces tunnels, ces souterrains, et comme les chrétiens étaient persécutés, alors ils allaient dans ces catacombes, dans ces souterrains, et ils se réunissaient là pour rendre à Dieu le culte, l'honneur, pour célébrer les saints mystères, la sainte messe, et puis pour enterrer les martyrs. Mais quand on a cessé la période des persécutions, alors les chrétiens ont commencé à bâtir un peu des lieux pour célébrer ces mystères. Et après le baptême de Constantin, 8 jours après, il est allé au Vatican. C'était une région où il y avait un cimetière. Et là se trouvait la tombe de Saint-Pierre. On avait enterré l'apôtre Saint-Pierre. Eh bien, pour aller vénérer le grand apôtre, le premier pape, Constantin est allé avec toute sa tête, tous ses ornements, sa couronne. Il est arrivé sur ce lieu, il s'est prosterné. Il a déposé sa couronne, il a versé des larmes, il a prié, il s'est recommandé à Saint-Pierre. Et ensuite, il a pris 12 paniers et une pioche, et il a creusé. Il a rempli les 12 paniers de la terre qu'il y avait à cet endroit en l'honneur des 12 apôtres qui avaient été choisis par Jésus pour fonder l'Église. Et ensuite, il a dessiné, il a fait le tracé de la basilique que l'on construira à ce moment-là. Et ça a été la première basilique qui a été construite sur la tombe de Saint-Pierre. Bien sûr, après, il y a eu d'autres qui ont été construites, puisqu'elles ont souffert du temps et tout ça. Et actuellement, il y a cette grande basilique Saint-Pierre au Vatican. Et puis, Constantin est allé à l'endroit où Saint-Paul a été tué. On lui a coupé la tête, Saint-Paul, à l'extérieur de Rome. Alors, à ce moment-là, ils sont allés, il a aussi tracé l'endroit où l'on bâtirait cette maison, cette église qu'on appelle actuellement la basilique Saint-Paul hors les murs. C'est un magnifique bâtiment. Si une fois vous allez à Rome, tâchez d'aller voir ces belles basiliques. Voilà. Et donc, cet événement a eu lieu le 18. Celle de Saint-Pierre a eu lieu le 18 novembre. Alors maintenant, chaque année, on célèbre l'anniversaire. On se rappelle, voilà, cet événement de la dédicace de la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors vous comprenez, si l'on a consacré ces lieux avec une telle cérémonie, avec une telle majesté, une telle grandeur, c'est un lieu où l'on doit entrer avec respect. C'est la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. On ne chahute pas, mais on se tient avec un grand respect devant Dieu. Vous savez, dans l'épître d'aujourd'hui, l'Église nous fait lire un passage de l'Apocalypse de Saint Jean. Saint Jean a eu des visions, et il a écrit ses visions, et on appelle ce livre l'Apocalypse. Eh bien, l'Église représente cette Église du ciel. Et il nous montre dans ce passage, voilà, cette grandeur de l'Église du ciel, et comment se tiennent ceux dans le ciel, comment se tiennent les saints et les anges dans le ciel. Avec un grand respect. Devant Dieu, on se tient avec un grand respect. Eh bien, nous sommes, cette Église représente, voilà, la maison de Dieu, ce ciel, cette Jérusalem céleste, où l'on doit se tenir avec beaucoup de respect, beaucoup de recueillement, beaucoup de ferveur. Quand vous entrez, c'est pourquoi il faut toujours prendre l'eau bénite, qui vous purifie l'âme, qui chasse loin de vous le diable. Et ensuite, vous devez venir faire une génuflexion devant le Saint-Sacrement, parce que là réside l'agneau de Dieu, le roi des rois, le Dieu de majesté. On ne fait pas une inclination seulement, on fait une génuflexion. Voilà, on n'est pas médiocre devant Dieu. Vous voyez ? Donc il faut penser à cela. L'Église, ce n'est pas un lieu où on est à la foire, ce n'est pas un cinéma, ce n'est pas une salle de concert, c'est un lieu de prière, un lieu où on rend à Dieu le culte, la majesté, l'honneur qui lui est dû, l'hommage, l'adoration qui lui est due. Voilà. Et c'est là où Dieu réside. Dans le temple de Salomon, on y avait mis l'arche d'alliance, c'est-à-dire les 10 commandements, les tables de la loi. Et on avait aussi mis une urne, un vase en or massif, dans lequel on avait mis de la manne. Vous savez ce que c'est que la manne ? La manne, c'est ce qu'ont reçu tous les matins les Juifs lorsqu'ils étaient dans le désert après être sortis de l'Égypte. Entre la sortie de l'Égypte et l'entrée dans la terre promise, ils sont restés pendant 40 années dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils allaient manger dans le désert ? Il n'y a rien qui pousse. Eh bien, tous les matins, ils recevaient la manne. La manne qu'ils allaient ramasser par terre. Puis quand le soleil venait, elle fondait, elle disparaissait. Mais ils avaient ramassé avant. Alors on gardait dans cette urne en or de la manne, en souvenir de ce que Dieu avait
nourri les Hébreux pendant 40 ans de la manne, c'est-à-dire du pain du ciel. Et bien dans l'Église aujourd'hui, nous avons encore une plus belle manne que cette manne qu'avaient les Hébreux, le pain du ciel qui est Dieu lui-même, Jésus-Christ. Alors, pensez à ça, mais ayez toujours un grand respect. Alors il nous faut demander. Demandez à Saint-Pierre, à Saint-Paul, à Constantin aussi, qui est cette main ancienne maintenant. Eux qui ont eu une grande vénération, qui ont eu un grand respect de ces lieux de Dieu, de ces maisons de Dieu. À tous ces saints qui ont bâti les cathédrales, qui ont bâti ces basiliques, qui sont maintenant dans l'église du ciel, voilà, dans la Jérusalem céleste. Il nous faut leur demander que nous ayons cette dévotion, que nous ayons ce recueillement, cette attitude, cette grandeur d'âme, cette grandeur d'esprit dans cette maison de Dieu. Que nous sachions nous y tenir toujours avec le respect qui est dû à Dieu. Voilà. Et que nous sachions aussi, bien, rendre l'hommage, l'honneur de culte qui est dû à la majesté divine. Voilà. Et si nous le savons faire, Dieu nous récompensera et il nous accueillera dans le ciel. Alors pensons-y, ce lieu est terrible, c'est la maison de Dieu et c'est la porte du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme vous le savez tous, nous sommes entrés dans une période que l'on appelle le temps de la Passion. Oui. C'est une période qui se situe dans le carême, mais juste avant Pâques. Et pendant ce temps de la Passion, l'Église nous fait revivre les dernières heures de la vie de Jésus sur la terre, surtout les heures où il a opéré la rédemption. Pour ça qu'on a caché les statues, vous avez remarqué que les statues sont recouvertes d'un voile violet, pour qu'on s'occupe seulement de la passion de Jésus et que l'on laisse les saints de côté pendant ce temps. Et si je vous demandais pourquoi Jésus a voulu endurer ces cruelles souffrances que vous connaissez, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, puis avant encore la prison pendant la nuit, les tribunaux, il a été raillé, ridiculisé, on lui a craché dessus, on lui a tiré la barbe, on lui a tiré les cheveux, on l'a poussé partout. Et puis, sur la croix, cloué, ces gros clous qui ont traversé les mains et les pieds. Alors si je vous demandais, mais pourquoi Jésus a voulu souffrir tellement? Alors vous me direz, mais c'est pour nous montrer combien il nous aime. Et c'est juste. Mais on pourrait encore donner une autre réponse. C'est pour nous montrer que notre vie est quelque chose à prendre au sérieux. S'il a voulu souffrir comme ça, c'est parce que dans la vie future, dans la vie qui sera après cette vie de la terre, il y a deux solutions. Ou le ciel, que l'on ne peut pas obtenir sans la croix, ou l'enfer éternel. L'enfer éternel, c'est quelque chose de si terrible que Jésus a préféré endurer cette passion pour que l'on n'y tombe pas. Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous parler un peu de cet enfer éternel qui est quelque chose d'horrible. Oh, rassurez-vous, j'ai jamais été encore en enfer, et personne n'a été en enfer de nous ici. Cependant, l'enfer existe. Comment est-ce qu'on sait qu'il existe puisqu'on n'est jamais allé? Bien parce que Jésus nous en a parlé. Et il y a quelques semaines en arrière, nous avions dans l'Évangile l'histoire que Jésus nous a racontée du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le mauvais riche, après sa mort, est tombé en enfer, tandis que le pauvre Lazare, lui, est allé dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le ciel. Et le mauvais riche, en parlant de l'enfer, il dit, je suis dans un lieu de tourment, dans ce lieu où on est tourmenté. Jésus nous en parle aussi en disant, c'est où il y a du feu. Oui, du feu qui tourmente les damnés. Voyez qu'est-ce que fait le pécheur. Celui qui fait des péchés, il préfère faire sa volonté plutôt que la volonté du bon Dieu. Il préfère s'attacher à la créature plutôt que de s'attacher au Créateur. Et là, bien sûr, il y a des degrés différents. Eh bien, en enfer, ceux qui sont damnés, comme ils ont préféré la créature au Créateur, eh bien, ils sont coupés de Dieu, d'une part. Ça, c'est la peine la plus terrible, la peine du damné. Mais ils sont châtiés dans tous leurs sens. Vous savez, et votre instituteur vous a dit qu'on en a cinq. Hein, on a la vue, par laquelle on peut voir. De par ce qu'il y a la lumière, on peut voir toutes ces choses. Il y a l'ouïe, par laquelle on entend. Il y a l'odorat, par laquelle on respire, on sent les bonnes odeurs. On peut distinguer les odeurs. On a le goût, hein, le palais. On sait si c'est du sucre ou du sel. Et on a le toucher aussi. Eh bien, les damnés sont châtiés dans ces cinq sens, mais d'une manière terrible. Ils sont châtiés dans la vue. Le feu de l'enfer est un feu particulier. C'est un réel, un feu réel, mais qui ne donne pas de lumière. Et donc, ils sont dans l'enfer, dans l'obscurité la plus totale. Et vous pouvez un peu vous imaginer ce que c'est que l'obscurité, d'être dans la nuit, ne rien voir, mais entendre des bruits, des grondements, des hurlements, et on ne voit rien, on est tourmenté sans voir. La nuit, il y a ou bien un tremblement de terre, ou il y a un bruit terrible de vent ou quelque chose, et vous ne voyez rien, vous êtes apeuré. Vous voyez ? La journée, moins, parce que vous voyez, mais la nuit, vous êtes beaucoup plus apeuré. Eh bien voilà, les damnés souffrent, ils ne voient rien. Ils entendent des hurlements, des cris, ils sont soumis à des douleurs terribles, mais ils ne voient plus jamais. Ils n'ont plus la lumière. Et une souffrance terrible. Eux qui voulaient tout voir, là ils sont privés de voir. Ils sont châtiés aussi dans leur lit. Là, il n'y a pas de calme, hein. C'est fini le grand silence, ça n'existe plus. C'est des hurlements continuels, mais des hurlements horribles. On mourrait de frayeur si on pouvait entendre hurler un seul damné. Ça nous ferait un tel effroi qu'on ne pourrait pas supporter, on mourrait. Et ils sont dans cet enfer où continuellement ils entendent hurler, continuellement, sans arrêt. Ça ne finira jamais. Ils entendront des murmures, des plaintes, des cris. Malheur, malheur à moi. Oui, des remords continuels. Oh, qu'il m'était facile de me sauver. Quand Jésus a souffert cette passion, il a tout fait pour moi. J'avais qu'à dire oui. J'avais qu'à accepter de faire sa volonté. J'avais qu'à me renoncer. Et j'ai préféré les plaisirs. Et maintenant, je suis perdu pour l'éternité. Malheur à moi. Ils entendront continuellement ça. Et puis ils se recevront des reproches. C'est à cause de toi aussi. Tu as été un scandale pour moi. Je suis en enfer. Tu m'y as entraîné. Voilà, ils se crient ça continuellement. Ils seront torturés aussi par l'odorat. Peut-être vous avez déjà essayé une fois d'allumer une allumette, puis de respirer tout de suite la première flamme, l'odeur du soufre. Ça vous coupe l'odorat. Hein. Eh bien, ils ont l'odeur fétide. Voyez, Saint Bonaventure nous dit, si un damné venait sur la terre, il dégagerait une telle odeur qu'on en mourrait. Une odeur insupportable. Et ils ne peuvent pas se passer le nez, non. Ils doivent respirer cette odeur continuellement. Et ils ne peuvent pas mourir. Ils aimeraient plutôt mourir que de sentir cette odeur. Ils ne peuvent pas mourir. Ils n'ont plus d'air frais. Ils ne peuvent pas faire... un bon bol d'air frais, non, c'est fini. Ils doivent respirer cette odeur horrible, nauséabonde, tout ce qu'il y a d'horrible. Mais il n'y a plus de bonne odeur. Ils sont châtiés dans leur goût aussi. Voyez, le mauvais riche dit à Lazare qu'il aille tremper son doigt dans l'eau pour qu'une seule goutte tombe sur ma langue. Ils sont privés d'une seule goutte d'eau, même plus une petite goutte d'eau. Ils sont affamés, mais ils ne peuvent rien manger. Ils sont déchirés par la faim. Ils ont fait bonne chère sur la terre, ils ont été gourmands sur la terre, et là ils seront terriblement châtiés. Et aussi, ils seront châtiés dans le sens du toucher. Ils seront brûlés. Vous avez déjà été près d'un feu, peut-être au 1er août, ou bien quand le papa nettoie le jardin, il brûle toutes ses branches, toutes ses feuilles, tout ça, il fait un grand feu. Allez voir une fois auprès du feu, puis restez-y. Vous ne pouvez pas supporter. Vous êtes obligé de vous mettre un peu en arrière pour qu'il y ait un peu d'air qui vienne vous refroidir. Vous sentez que ça brûle, et vous n'êtes pas dedans le feu. Vous êtes près du feu. Vous êtes déjà brûlé. Et si vous allez trop près, puis vous avez des habits en nylon, les habits prennent feu, même avant d'entrer dans le feu. Eh bien, eux, ils ne sont pas à côté du feu, ils sont dans le feu. Et non seulement ils sont dans le feu, mais le feu est au-dedans d'eux. Ils ont tous les intestins, tous les entailles brûlés. Ils sentent toutes ces douleurs. Et le feu de la terre est comme un feu en peinture. Vous avez déjà vu des feux peints ou des photos de feu? C'est pas grand-chose, on peut mettre la main dessus, on a pas mal. Eh bien, le feu de l'enfer est si terrible que le feu de la terre est comme le feu sur une image, le feu peint, le feu en peinture. On imagine ce que ça doit être. Et ils ne meurent pas. Sinon, on tombe dans le feu, on meurt. Eux, ils ne meurent pas. Ils sont torturés. Et ce n'est pas tout. C'est qu'ils sont tassés comme des sardines dans une boîte. Ils ne peuvent même plus bouger les petits doigts. Ils ne peuvent pas se gratter l'oreille. Ils ne peuvent pas se tourner pour chercher un petit peu d'aise. Vous savez, quand vous êtes malade, et de temps en temps, vous vous tournez d'un côté, de temps en temps, vous vous tournez de l'autre pour essayer de vous soulager un peu de la douleur. Là, ils ne peuvent plus bouger. Même pas bouger le pied. Ils sont les uns sur les autres comme des sardines en boîte. Ils ne peuvent pas lever la tête. Ils sont entassés sans pouvoir bouger et pendant l'éternité. Vous savez, ça dure plus que des années, l'éternité. Ça dure toujours, toujours. Voilà ce que souffrent les damnés. Mais ça, c'est rien, ces souffrances-là. Elles sont terribles, mais elles ne sont rien à côté de la privation de Dieu. Nous, on ne comprend pas très bien ce que c'est que la privation de Dieu, parce que l'on ne voit pas Dieu. Vous voyez, on ne se rend pas très bien compte. Mais eux, ils se rendent compte, parce que de l'autre côté, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus au seul un seul bien que Dieu. Tout le reste disparaît. Et ce bien que Dieu leur échappera sera coupé de Dieu pour l'éternité. Je vous avais dit l'autre fois que les démons seraient d'accord de ramper pendant des centaines d'années sur des couteaux rougis au feu, ramper dessus, donc ils seront tous déchirés, pendant des centaines d'années pour voir 5 minutes Dieu. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour voir Dieu? Eh bien, eux, ils ont compris ce que c'est d'être coupés de Dieu. Eh bien, les damnés sont coupés de Dieu pour toujours. C'est la peine du dent, et c'est la plus terrible. Mais on ne la comprend pas. Les autres, on comprend un peu plus, parce que les sens, on arrive à concevoir quelles sont les douleurs des sens. Eh bien, voyez, si Jésus a voulu souffrir cette passion, c'est pour qu'on ne tombe pas en enfer. C'est trop terrible. Et si Jésus n'avait pas souffert cette passion, on irait en enfer, tous. On ne pourrait jamais plus aller voir Dieu et on irait en enfer. À cause du péché originel. Car on a tous commis des péchés. Vous voyez ? Et s'il n'y avait pas eu Jésus qui serait venu sur la terre pour nous pardonner les péchés, on serait tous damnés pour l'éternité. Maintenant que vous êtes là, maintenant qu'on parle, il y a des âmes qui tombent en enfer. Il y en a qui sont. Judas, il est là-dedans. Et c'est terrible, mais ils souffrent. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Le curé d'Ars disait, si l'on permettait aux damnés d'aller au confessionnal, ils sortiraient tous. Ils feraient des queues devant les confessionnaux. Et ils supplieraient de pouvoir assister, de pouvoir aller se confesser. Parce qu'ils savent que par la confession, ils peuvent éviter l'enfer. Ils reçoivent le pardon des péchés. Et ils peuvent entrer un jour au ciel, en passant par le purgatoire, mais un jour ils iront au ciel. Mais c'est fini pour eux. Ils ne peuvent même plus confesser. C'est terminé. Et vous savez, ceux qui sont en enfer, ils ont été petits comme vous. Ils ont eu votre âge. Ils étaient comme vous. Ils avaient des défauts. Ils avaient des qualités aussi. Il y avait de ceux qui étaient serviables, il y avait de ceux qui étaient charitables. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils n'ont pas voulu lutter contre leurs défauts. Ils ont dit, oh, moi j'aime bien être gourmand, ça me fait plaisir, alors je continue. Moi je suis voleur, mais moi ça me fait plaisir. On a des tas de choses quand on vole, puis ça ne nous coûte pas grand-chose. Vous voyez? Ou bien moi, oh moi non, moi j'aime pas obéir, moi ça c'est pas pour moi. Moi je fais à ma tête, j'ai un tempérament, mon caractère, j'obéis pas. Vous voyez? Voilà. Et petit à petit, ils sont arrivés à faire des plus gros et des plus gros et des plus gros péchés, jusqu'au jour où le bon Dieu les a rappelés. Et alors là, ils sont tombés en enfer. Voilà. Alors, il faudrait que vous remerciez beaucoup Jésus. Voyez, tout ce qu'il a fait pour qu'on ne tombe pas dans ce lieu de tourment terrible qui existe. Les enfants de Fatima ont eu la grâce de voir l'enfer. La Sainte Vierge leur a montré une fois l'enfer, hein, aux trois petits enfants de Fatima. Ils ont été si épouvantés que si la Sainte Vierge ne leur avait pas promis de les prendre un jour au ciel, ils seraient morts de frayeur. Et depuis ce jour-là, ils ont pris la vie au sérieux. Ils priaient des rosaires tous les jours, ils faisaient des grands sacrifices, des pénitences, à tel point que des fois, quand ils allaient garder leurs troupeaux dans les champs, ils donnaient le pique-nique qu'ils avaient reçu pour dîner, ils donnaient aux brebis, ou bien donnaient aux pauvres qui voyaient en chemin. Ils se privaient pour éviter que les âmes tombent en enfer. Voyez, c'est terrible. Sainte Thérèse d'Avila, celle qui a réformé les carmélites, a dit, un jour, elle a eu la grâce, le bon Dieu lui a fait la grâce d'aller en enfer un petit moment. Eh bien, elle a dit que ça a été la plus grande grâce, une des plus grandes grâces de sa vie. Elle a dit, c'était si terrible, si horrible, que chaque fois que j'y pense, j'en ai un frisson dans le dos. Je suis effrayé. Le bon Dieu lui a dit, ben voilà la place qui t'était réservée si tu ne changeais pas, si tu ne prenais pas plus au sérieux ta vie. Oui. Elle n'avait pas pris assez au sérieux, peut-être elle était déjà religieuse, hein, mais elle n'avait pas pris assez au sérieux sa vie. Et elle aurait dû aller en enfer. Voilà. Alors Jésus a pris au sérieux chacune de nos âmes et il a voulu souffrir cette passion parce que c'est grave ce qui va nous arriver si on ne fait pas, si on ne change pas, si on ne se convertit pas, si on ne fait pas des efforts, on tombe en enfer. Et il y a beaucoup d'âmes, les enfants de Fatima ont dit, les âmes tombent en enfer comme les flocons de neige en hiver. Et vous avez bien vu combien il y en a de flocons quand vous n'arrivez pas à les compter. Les âmes tombent en enfer comme les flocons en hiver. Terrible. Voilà. Alors il faudra remercier le bon Dieu de ce qu'il a voulu souffrir cette passion pour nous empêcher de tomber en enfer. Et non seulement remercier, mais profiter. Dire maintenant, oui, vous avez été généreux pour moi, et bien maintenant aussi, moi je veux être généreux. Je vais aussi faire un effort. Je ne veux pas me laisser aller. Je ne veux pas suivre ceux qui sont tombés en enfer. Voilà. Si je suis désobéissant, eh bien je m'appliquerai à être obéissant. Si je suis gourmand, je lutterai contre et je tâcherai de ne plus être gourmand. Si j'ai tendance à voler, eh bien maintenant c'est fini. Hein. Je promets, je ne vole plus. Je ne veux plus voler. Le bon Dieu ne veut pas. Et si je continue comme ça, je ne pourrai pas me sauver. Et demander à la Sainte Vierge, demander à la bonne maman du ciel, elle ne veut pas non plus que l'on tombe en enfer. Alors il faut que nous lui demandions de nous aider à lutter contre nos défauts, à ne pas suivre la voie large et facile, pas suivre les commodités, les facilités, mais à suivre le chemin étroit, le chemin difficile, mais pas impossible, qui nous conduit au ciel, afin qu'un jour nous ayons tous la joie de nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.